Donc, je vais commencer avec les mots de la costumière Laure Loulier au début d'un entretien où elle revient sur sa rencontre avec Maxo Fulce sur le film Yoshiwara. Vous savez, j'avais débuté avec Gros Noir et tout était très français et en quelque sorte équilibré. Là, en revanche, c'était le début de l'influence des Allemands qui arrivaient en France. Tout le monde était allemand. En fait, je ne connaissais qu'un mot allemand. Ophuls m'a demandé lequel. J'ai dit Scheiße, et des rires. Je demandais aux gens qu'est-ce que ça veut dire. Alors, l'anecdote, elle renvoie avec humour à l'atmosphère hein, allemande qui pouvait surprendre ces techniciens français lors de la fabrique de ce que j'appelle les films d'exil. Je vais y revenir dans les studios en France entre 1933 et 1940. En l'occurrence, Yoshiwara étant tourné en avril 1937, sorti en août 1937. Ça faisait déjà quelques années que ces Allemands étaient là. On devrait évidemment parler d'exilés venus d'Allemagne, puisqu'ils étaient tous germanophones, certes, mais aussi originaires de Russie, d'Autriche, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, etc. Donc parler d'Yoshiwara comme d'un film d'exil et non simplement d'un film français permet, je crois, de questionner le statut et l'identité de ces films français auxquels les exilés ont apporté une importante contribution. Et c'est ce faisant tenter de mieux établir en quoi et comment ce corpus de films participe d'une européanisation du cinéma français dans les années 30, en quoi il a pu constituer en parallèle et dans le prolongement des versions multiples, sans doute plus profondément que ces dernières en raison d'une moindre industrialisation, un espace de création européen. Alors, un point historiographique d'abord qui s'impose. Donc, j'emprunte la notion de film d'exil à l'historien du cinéma Jan Christopher Horak, et je m'arrête un peu sur la définition précise qu'il en donne dans un livre de référence sur le cinéma allemand qui est paru en 93, qui a été réédité en édition augmentée en 2004. Ça va être un peu le fil directeur. Vous allez voir qu'il y a des nœuds. Il retient cette qualification de film d'exil pour tout film réalisé par un producteur, un réalisateur et un scénariste émigré d'Allemagne après l'arrivée au pouvoir des nazis. Il apporte une précision, souvent du fait justement de l'exil, c'est les émigrés ne pouvaient pas occuper les trois postes. Donc Horak ajoute que dans de nombreux cas, les œuvres peuvent aussi être qualifiées de films d'exil lorsque deux postes au moins sur les trois, donc le réalisateur et le scénariste, ou bien le producteur et le réalisateur, ou bien le producteur et le scénariste, sont occupés par ces émigrés. Et que souvent, d'autres émigrés, je cite, font partie de l'équipe technique, en particulier opérateurs et décorateurs. Alors, en l'occurrence, si on revient à l'exemple de Yoshiwara, le film répond pleinement à la définition. Il a été produit par Hermann Milakowski, ancien dirigeant de la Greenbaum Production à Berlin, qui s'est réfugié à Paris en 1934, où il a fondé la société Milo Film. Il est réalisé par Maxo Fulz. Et le scénario est écrit par Wolfgang Wilhelm et Arnold Lipschitz, crédité Lip. Et ce trio de juifs allemands exilés est complété par d'autres, l'assistant réalisateur Ralph Baum et surtout le chef opérateur Eugen Schuftan et le compositeur Paul Dessau. Alors, avec cette définition, Horak entend d'abord répondre à un angle mort de l'histoire du cinéma, car ces films d'exil ont souvent été dépréciés, peu étudiés. Il y a diverses raisons. Dans les histoires générales du cinéma, c'est souvent du fait de leur aspect commercial, parce qu'ils ont, les cinéastes ont souvent dû répondre à des commandes. De ce point de vue-là, quand même, j'ai mis la référence parce que, il y a une exception, c'est l'historien du cinéma polonais Jerzy Toplitz, qui, dans son volume de l'histoire du cinéma consacré aux années 34-39, prend en compte la participation des exilés au cinéma français, autrichien et hongrois. Alors c'est traduit en allemand et en russe, mais pas en anglais. Ces films d'exil, ils ont été globalement négligés aussi dans les études autoristes, cette fois du fait d'objets qui sont films qui sont considérés comme mineurs par rapport à des filmographies qui comportent des chefs-d'œuvre. Il faut ajouter aussi à ça la difficulté à les situer dans les histoires nationales du cinéma, parce qu'ils en ont parfois bousculé les conventions. Et il est intéressant de noter que la proposition de Horak se situe dans un chapitre intitulé Cinéma d'exil 33-45 à l'étranger, ce que vous l'avez en haut, ce qui s'intègre donc à une histoire du cinéma allemand. Et si Horak soulève à juste titre la question, puisqu'il dit « Est-il tout simplement possible d'intégrer les films d'exil dans une histoire du cinéma allemand ?» il affirme plus loin, je cite, « L'histoire du cinéma d'exil ne doit pas être regardée comme un phénomène marginal de la production cinématographique des différents pays d'exil. Il faut la lire comme un chapitre de l'histoire du cinéma allemand, se déroulant parallèlement à celui du cinéma du Troisième Reich, comme un morceau de la culture cinématographique de l'Allemagne anti-nazie, de l'autre Allemagne, pour reprendre le concept caractérisant l'exil allemand. » Et il ajoute que pour la plupart des jeunes cinéastes des années 60, des jeunes cinéastes allemands, hein, bien sûr, la, je cite, la vraie histoire du cinéma allemand, sans guillemets à vrai, ne passe pas de Weimar au nouveau cinéma allemand via les pères compromis dans le Troisième Reich, mais via les exilés tels Lang et Eisner. Alors, l'enjeu politique et d'histoire est évidemment fort. Il ne s'agit surtout pas de nier cette dimension politique et le discours d'exil sur l'exil qui peut être souvent présent en filigrane dans ces films et que j'ai par ailleurs à cœur de faire émerger. On voit ça de manière évidente dans deux films d'Ophuls, dans le roman de Werther et dans De Meyerling à Sarajevo. On voit ça, c'était pour Vincent, on voit ça aussi dans Molnar, dans le drame de Shanghai aussi. Voilà, il y a d'autres films, bien sûr, dans l'Ilium, je vous ai un tout petit peu dit un mot hier aussi. Alors, il me semble néanmoins que le véritable apport de la proposition de Horak réside plutôt dans la voie qu'il ouvre, même s'il ne la suit pas complètement, pour appréhender la dimension transnationale de ces films, et plus particulièrement la dimension européenne pour les films d'exil réalisés donc en Europe entre 1933 et 1940. C'est d'autant plus vrai que, précisément, les professionnels du cinéma, à contrario des écrivains de la littérature d'exil, ce qu'on appelle l'exil littérature de l'autre Allemagne, ces cinéastes, ces professionnels du cinéma dans l'ensemble, devaient composer avec l'industrie cinématographique d'un nouveau pays, avec un nouveau public et dans une autre langue. Alors, parenthèse, l'Autriche fait évidemment ici exception, mais la subordination économique de l'industrie cinématographique autrichienne à celle de l'Allemagne fait que dès 1934, en réalité, on ne peut pas y faire de films d'exil et qu'à partir de 1936, c'est carrément impossible puisqu'il y a des accords qui stipulent l'interdiction de recruter des Juifs pour les producteurs autrichiens. Donc, ces films qui confrontent les professionnels du cinéma venus d'Allemagne à une langue, une industrie cinématographique, un pays étranger, ne constituent pas simplement un cinéma d'expatriés. Et si l'on veut éviter de les réduire à un phénomène marginal de diverses cinématographies nationales ou bien, dans l'autre sens, à un pan particulier de l'histoire du cinéma allemand, je crois que c'est à partir d'une perspective des transferts culturels, justement, qu'il faut les aborder. Cette démarche étant à même de mieux apprécier, voire réévaluer, la manière dont ils ont pu, à des degrés divers, interférer avec les productions cinématographiques nationales, nourrir ces dernières, participer de leurs évolutions, mais aussi transformer ces professionnels eux-mêmes et finalement construire donc un espace spécifique de création filmique. J'emploie le terme donc de transfert culturel en me référant, et là vous allez reconnaître les choses qu'a dites Cataline, en me référant donc à la conception qu'en donnent Michel Espagne et Michael Werner dans leur ouvrage de 1999, Les transferts culturels franco-allemands, où ils récusent donc le caractère statique, vous le savez maintenant, de la notion d'influence, qui suppose une polarité avec un trajet à sens unique pour privilégier, eux, une conception dynamique. Je les cite, « Un transfert culturel n'est pas déterminé principalement par un souci d'exportation. Au contraire, c'est la conjoncture du contexte d'accueil qui définit largement ce qui peut être importé. Dans le champ spécifique des études cinématographiques, et sans se référer explicitement à cette approche des transferts culturels, Frank Kessler, Cataline vous l'a dit aussi, a fait le point en 2004 sur cette notion d'influence et aboutit à des considérations proches dans son article, donc « Influence, une notion problématique, problématique d'une notion », où il pointe le fait que la notion d'influence privilégie l'unidirectionnalité, la causalité et risque ainsi d'entraver l'analyse et de favoriser le jugement de valeur. Un intérêt majeur de la perspective des transferts culturels proposés par Espagne et Werner est de penser les dynamiques en jeu dans le passage d'éléments d'un système culturel à un autre, non pas simplement à partir de personnalités, de figures intellectuelles fortes, ce qui a pu être fait par le passé, mais à partir de groupes, même si ces derniers, je cite, sont parfois de faibles dimensions. C'est d'ailleurs souvent le cas pour les groupes professionnels et en particulier pour un cas qu'il cite, qui est celui des musiciens allemands installés en France au XVIIIe et XIXe siècle. Et donc on voit bien d'ailleurs ici que la perspective peut s'avérer davantage qualitative que quantitative. Je les cite à nouveau. Les idées, les livres, les comportements sont transmis par des individus et plus encore par des groupes qui franchissent matériellement la frontière. Et il faut cerner l'action de groupe qui transporte d'un côté à l'autre, d'une frontière géographique ou symbolique, des éléments d'un système dans un autre système. Il y a deux notions clés pour moi qui interviennent aussi dans leur compréhension et leur étude de ces processus. C'est celle de métamorphose et celle de resémantisation. Parce que, quelque chose qu'a évoqué en partie aussi Cataline. Deux citations là-dessus. Le passage d'un espace culturel à l'autre entraîne une métamorphose. Et ça, c'est important. Il ne peut pas y avoir juste des calques. Et lorsqu'un objet passant la frontière transite d'un système culturel à un autre, ce sont les deux systèmes culturels qui sont engagés dans ce processus de resémantisation. Alors, pour la question qui nous occupe, celle des films d'exilés français des années 30, ce champ d'investigation à partir des transferts culturels, il déborde largement. Même s'il la comprend, cette question à laquelle il a été souvent réduit en France, mais aussi aux États-Unis, et qui n'est pas moindre, de l'apport esthétique de la photographie allemande, une question qui reste, à mon avis, encore à explorer, justement en prenant peut-être en compte plus, de manière un peu plus large l'interaction de ce tandem, de ce duo. C'est juste une parenthèse, si on prend l'idiome, par exemple, la question du destin, le suicide, le rapport à la mort sont des choses qui peuvent participer d'une évolution aussi vers le réalisme poétique, aussi bien que la question de la photographie. Enfin, ce champ d'études aussi peut s'étendre à la question du jeu JEU avec les genres cinématographiques et les normes génériques nationales. Tous les professionnels du cinéma venus d'Allemagne ayant déjà été rompus à une production générique, en particulier à la UFA, mais avec un cinéma de genre qui présentait des différences avec celui de la France. Donc, par exemple, certains ont échoué parce qu'ils dérogeaient aux normes de production françaises. On a vu, j'ai évoqué la question de l'écart par rapport au populisme, en tout cas perçu comme un écart. Voilà, même si ça a été le cas déjà avant, pas seulement pour l'idiome, ça a été le cas pour Du haut en bas de Pabst. Il y a un article de Gertrude Kort très très bon là-dessus sur le problème de Gabin chez Pabst qui passe pas. D'autres exilés ont eu du succès en valorisant leur savoir-faire, notamment quand ils arrivaient à se nicher à trouver une niche générique, on va dire. Par exemple, le mélodrame exotique situé en Extrême-Orient, c'est le cas pour Yoshiwara, qui peut s'inscrire dans cette série-là. Et là, on voit bien, c'est en lien avec la question aussi de l'hostilité, hein, c'est-à-dire que cette niche-là leur permettait de ne pas marcher sur les plates-bandes aussi de leurs confrères. Et puis, autre exemple, quand ils ont redynamisé le film historique avec une série de mélodrames princiers qui a été impulsée par le Meyerling de Litvak au début de l'année 36. Et là-dessus, il y a des rapprochements d'ailleurs à faire avec ce qui se passe sur le film d'exil en Grande-Bretagne avec Korda, par exemple. Une troisième piste peut s'articuler en tout cas aux deux premières consiste à explorer de manière un peu plus concrète en fait si et comment ces films d'exilés ont pu être au cœur de la rencontre entre deux systèmes dans la fabrique des films. Dans quelle mesure ont-ils pu être le lieu d'une diffusion, d'un partage ou d'une mise en place de pratiques différentes? Espagne et Werner avaient déjà indiqué qu'il fallait sans doute prendre en considération, je les cite, des lieux géographiques qui, à la suite d'une présence dense d'immigrés occupant des positions interconnectées, sont devenus des points de passage entre l'Allemagne et la France. Dans le prolongement de leurs travaux, Matthias Middel, qui est aussi un historien de la culture, a insisté sur cette notion de spatialisation et il a mis l'accent sur le contexte d'accueil en mettant en avant les processus d'appropriation et de sélection qui sont à l'œuvre pour ces éléments étrangers qu'on intègre dans sa propre culture. Des processus qui, en fait, supposent des contacts, bien évidemment, entre les populations, et aussi une motivation à travers l'identification d'un déficit dans son propre système. On va trouver chez les autres quelque chose qu'on n'a pas forcément ou pas assez. L'hypothèse ici, c'est que ces films d'exil ont sans doute constitué à Paris des lieux privilégiés justement pour la diffusion et l'adaptation de pratiques issues des studios allemands et en particulier de la UFA, tout simplement parce que la présence des exilés y était suffisamment forte pour le permettre et que ces derniers ont donc pu faire valoir notamment, je crois, une méthode de travail qui reposait sur une collaboration dynamique et interprofessionnelle plus forte et plus efficace, une méthode qui a été perçue justement par un certain nombre de professionnels français comme répondant à un besoin. Par définition, il fallait que plusieurs exilés qui partageaient culturellement cette méthode puissent travailler ensemble hein, pour en devenir les médiateurs, si je reprends le terme d'Espagne et Bernard. Alors cette question est délicate, j'y reviendrai, hein, parce que, notamment du point de vue des sources. La définition du film d'exil de Horak, elle présente d'abord l'intérêt d'identifier ces films comme des lieux, en tant que lieux propices, possibles hein, pour ces médiations, et de les distinguer de l'ensemble de ceux auxquels ont participé les exilés, mais de manière plus isolée. Je prends un exemple. Si on prend Divine et La tendre ennemie, qui sont réalisés successivement par Ophuls en 1935 et 1936, et avec la même maison de production, celle de fondée par l'actrice Simone Berriot, hein, Eden Productions, seul le second film, donc La tendre ennemie, est un film d'exil. Parce que, ayant acquis la confiance de l'actrice productrice après Divine, Ophuls a eu plus de latitude. Donc, dans Divine, en fait, il avait simplement pu employer Ralph Baum comme assistant, alors que, du coup, ayant acquis la confiance de Berriot, il peut choisir pour La tendre ennemie ses collaborateurs et il parvient à faire engager le scénariste Kurt Alexander et le chef opérateur Eugen Schuftan, deux postes clés dans la définition de Horak. C'est pas un hasard. Alors, cette définition du film d'exil, elle fournit donc d'abord un outil de recensement hein, qui permet une première évaluation globale de la part effective de cette production française dans laquelle les exilés ont été fortement impliqués et donc potentiellement médiateurs d'une autre manière de travailler ensemble. Horak répertorie ainsi un total de plus de 220 films réalisés par les exilés dans l'ensemble des pays d'accueil entre 1933 et 1945 et parmi cet ensemble, au moins 46 ont été tournés en France entre 1933 et 1940, soit 21% des films d'exil. J'ai entamé le recomptage de ça, mais c'est très très long et laborieux. Mais voilà, je vous tiendrai au courant. Je pense qu'on est plutôt à 50 d'après mes premières. Mais bon, voilà. Alors, rapporté à la production française de la même période, ce qui compte, c'est que du coup, cet ensemble de films d'exil représenterait au moins 8%, 8 à 10% de la production cinématographique française. Alors, quantitativement, le pourcentage est bien sûr faible, mais il n'est pas négligeable. Il est par ailleurs sans doute inférieur à la réalité, car il comprend cette fameuse zone grise que j'ai un peu évoquée ce matin, liée au contexte, hein, c'est-à-dire que les exilés se trouvaient dans une situation précaire, et nombre d'entre eux, parce que leur situation était exploitée, cette situation précaire était exploitée par les producteurs, soit parce que ils disposaient pas tout simplement d'autorisation officielle au bon moment, n'ont tout simplement pas pu être crédités. Si on revient à Yoshiwara, vous avez en fait en plus des deux scénaristes que j'ai cités, des deux juifs allemands déjà que j'ai cités, un autre scénariste qui est cité, qui est apparemment bien français, Dapoigny. Sauf que ce Dapoigny, alors j'ai pas retrouvé la source, je pense que c'est chez Asper que j'avais vu que c'était probablement en réalité Jacques Companèse. Donc, autre exilé, scénariste qui avait fui la révolution russe, qui était passé par Berlin, qui avait travaillé à Berlin et qui arrive en France en 1933. Enfin, la définition du film d'exil proposée par Horak, avec son insistance sur ce duo entre producteur, réalisateur, scénariste et l'équipe technique du film, centrée en particulier sur ses postes d'opérateur et de décorateur, elle est elle-même à relier à une certaine conception du cinéma qui régnait dans ses studios berlinois sous l'ère Pommer, aussi bien à la Decla Bioscope qu'ensuite à la UFA, et elle apparaît aussi pour cette raison comme un levier pour appréhender la question des pratiques professionnelles, des modalités de création et de gestion du travail collectif. Alors, on marche sur des œufs parce qu'on a très peu d'éléments hein, sur ces usages et pratiques ayant cours dans les studios à Berlin. La littérature sur la UFA, elle est beaucoup plus orientée vers une lecture économique et politique, voire juridique. On manque aussi de documents sur les tournages des films d'exil en France, avec un problème lié aux archives des films des années 30, enfin, aussi parce que pour les films d'exil, il y a beaucoup de producteurs étrangers et que les archives sont éparses. Néanmoins, dans un colloque précédent, et qui avait été organisé par Cataline, qui s'intitulait « La création cinématographique, coopération artistique et cadrage industriel », j'avais tenté déjà de montrer comment, à partir de sources éparses, comprenant à la fois cette littérature sur la Oufa, recoupée avec des mémoires ou témoignages des cinéastes, des techniciens, avec les articles de presse d'époque, on pouvait, sachant que ces cinéastes faisaient beaucoup, et ces techniciens, on en parlait beaucoup dans la presse, et ils faisaient venir la presse, qu'à partir de ce recoupement, on pouvait noter dans le contexte français l'émergence d'une proximité de vue et de pratique des exilés qui avait surpris les techniciens français et qui a crédité l'idée d'un héritage de la Oufa ou plus globalement des studios allemands. Il y a peut-être une différence à faire, mais ça... Voilà. Ça passait notamment par l'application ou plutôt l'adaptation d'une méthode spécifique, en l'occurrence celle de la Regie-Sitzung, c'est-à-dire la réunion de mise en scène. Alors, il faudrait dire les réunions de mise en scène. Je m'explique, donc selon la définition que j'avais pu en trouver chez l'historien du cinéma Helmut Weismann, il s'agissait en fait de longues réunions préliminaires, préparatoires, très en amont du tournage, et où chaque membre de l'équipe technique exprimait ses souhaits spécifiques et où ça donnait lieu à des discussions intenses. Hein, c'était des longues... Or, cette méthode, qui est donc héritée de l'ère du muet, mais qui se poursuit avec le parlant, elle s'articulait précisément autour de ce noyau technique constitué par le réalisateur, le chef opérateur et le décorateur. Ces réunions de mise en scène, elles pouvaient être interminables, hein, notamment avant l'ère du parlant. Et elles comprenaient à minima ce trio, mais elles s'étendaient aussi variablement aux autres techniciens, voire au-delà. Depuis le réalisateur jusqu'à l'électricien et au monteur, le film considéré comme une œuvre d'art collective, je cite ici Weismann. L'exemple paroxystique de ça, vous le connaissez sans doute, mais sans savoir forcément qu'il y avait ces réunions de mise en scène, c'est la préparation de plusieurs films de langue, notamment les Nibelungen, avec des réunions de mise en scène pendant 3 mois avant, même là, le début de la production. Mais aussi Métropolis ou La femme sur la lune, mais ce qui permet d'ailleurs de resituer aussi des pratiques individuelles par rapport à des pratiques collectives. Les recherches que j'ai faites depuis dans la presse d'époque révèlent que l'emploi du terme, en réalité, déborde cette stricte définition des réunions interprofessionnelles préliminaires. Si ce terme recouvre toujours cette idée de rassembler d'abord l'équipe technique du film pour mieux appréhender ensemble, et là je cite Kramer, l'objectif, la vision, et pour, je le cite toujours, fixer de la manière la plus précise possible tous les paramètres du processus de création, j'ai pu constater que ce mot Regie-Sitzung, réunion de mise en scène, est employé en fait aussi pour désigner des réunions ultérieures. Il est qualifié notamment pour ces réunions qui ont lieu chaque jour, ensuite chaque jour du tournage, ou presque, pour en assurer le bon déroulement et l'efficacité. Alors ce deuxième emploi est peut-être à rapporter au passage au parlant, mais ça reste à vérifier. Je vais évoquer 2 exemples hein, pour ce deuxième usage. Et vous avez, en fait, c'est une photo qui est donc légendée comme telle, qui est issue de la revue des Monats d'octobre 1929. Et elle rend compte du tournage de Mélodie des Herzen, Mélodie du cœur, tournage qui dure de mai à fin septembre 1929. Il s'agit du film, peut-être Christophe le connaît, puisqu'il s'agit du film qui impose la conception de la version multiple de Pommer. C'est un succès mondial qui est filmé en 5 versions, une version muette, mais aussi une version allemande, française, anglaise et hongroise. La légende spécifie, là tout en dessous, qu'il s'agit d'une réunion de mise en scène la veille du prochain jour de tournage, et une réunion durant laquelle les concepteurs du film décident ensemble de la répartition du travail à accomplir. De gauche à droite, vous avez donc l'assistant réalisateur, le réalisateur Hans Schwarz, le troisième en partant de la gauche, c'est Pommer. Ensuite, vous avez le chef opérateur, Günther Ritau, qui est assez célèbre, le directeur musical Werner Richard Heinemann, l'ingénieur du son, Fritz Thierry, l'assistant opérateur Hans Schneeberger et l'assistant de production Max Pfeiffer. Il manque curieusement ici le décorateur, qui peut être ponctuel, qui est aussi étonnant parce que c'est quand même le célèbre Kettle Hoot, Erich Kettle Hoot, qui a travaillé sur les films de langue notamment. Autre exemple similaire de mention de réunion de mise en scène dans la presse allemande durant le parlant. En 32, fin septembre 32, ils avaient un journaliste, Wolfgang Köppen, journaliste du Berliner Börsen Courier, qui assiste au tournage de FP1 Antwortet nicht, F1 ne répond plus, qui est la dernière grosse production de Pommer à la UFA, et qui avec un truc complètement délirant, l'histoire, ça suppose la construction d'une île en plein Atlantique, donc c'était un tournage complètement pharaonique. Le journaliste observe d'abord, parle d'une réunion de mise en scène et qui se tient dans les décors même. Je le cite, dans la cabine du bateau, il y a réunion de mise en scène. Pommer, virgule, Hartel, le réalisateur, Klagemann, l'assistant de production, les caméramen, les assistants réalisateurs et les décorateurs établissent le programme du jour suivant. Cette méthode de la réunion de mise en scène a manifestement évolué, donc aussi, enfin, d'abord avec ce deuxième usage, mais elle a évolué en tout cas vers plus de rationalisation, d'après ce que j'ai pu en saisir, au moins pour ces réunions préliminaires, ça c'est sûr, et en tout probablement aussi après 27, donc après le séjour en fait de Pommer aux États-Unis, l'un n'étant pas étranger à l'autre. Hein, et probablement avec l'idée de produire plus industriellement les versions multiples. Parenthèse, je pense qu'il y a une différence à faire en réalité entre la manière de travailler de Pommer sur les versions multiples et la manière dont il fonctionne pour les autres films. Je pense que c'est pas tout à fait du même ordre. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, cette méthode reste centrale. Elle revêt cette spécificité déterminante d'asseoir systématiquement la création filmique sur les relations étroites entre les différents corps de métier et sur la création d'un vaste collectif au service du film, et ce donc en amont et pendant le tournage. Alors les témoignages de techniciens français que j'ai trouvés comme Henri Alecan, Henri Eisner, Max Douy, Laure Lourier, Jeanne Lanvin, d'acteurs ou d'actrices tels Harry Bohr, Edwige Feuillère, Pierre-Richard Wilm, pour les principaux. Certains articles aussi de presse d'époque sur les tournages de films d'exil révèlent en filigrane comment ces exilés ont souvent tenté de reprendre cette méthode de la réunion de mise en scène dans les studios français. Ils s'appuient alors le plus souvent sur ce fameux noyau dur technique. Je cite Alecan sur le tournage de La Tendre Ennemie. « J'assistais admiratif à ces échanges d'idées et de concepts entre le metteur en scène, son décorateur et son opérateur, en l'occurrence Schuftan et Godko. » Et ils installent à partir de là une collaboration intense au sein de l'équipe du film. Et là, je cite cette fois la costumière Jeanne Lanvin, qui, à propos de son travail sur Trois valses de Ludwig Berger en 1938, dit qu'elle est, je cite, « restée en liaison constante avec les techniciens du film. Tous les lieux et les effets ont été vérifiés par le metteur en scène lui-même, Ludwig Berger, et l'opérateur Schuftan. » Et surtout, techniciens et acteurs mentionnent ces réunions qui prennent en France des formes vraisemblablement différentes selon la latitude du cinéaste et les moyens qui sont mis à sa disposition pour le film. Alors, conformément à ce qui se passait à Berlin, lorsque ces longues réunions de mise en scène préliminaires, donc en amont du tournage, pouvaient avoir lieu, parce qu'en gros les moyens le permettaient, elles se situaient parfois en dehors du plateau. C'est le cas pour La Tendre Ennemie avec chez le décorateur Godko. Mais elles se retrouvent parfois aussi seulement sous la forme de rendez-vous collectifs durant le tournage, réduites en fait à des moments que le cinéaste met en place avant de tourner quand il n'a pas assez de temps, ou bien en plus quand il en a. Maurice Bessy, par exemple, assiste pour Cinémonde au tournage de Mademoiselle Docteur de Pabst en juillet 1936 et il évoque, je cite, la manière Pabst, qui à mon avis du coup n'est pas que la manière Pabst, mais la manière Pabst, au début de la réalisation, grande réunion générale, la compréhension du sujet est mise au point. Il s'agit, selon la pratique usuelle à la UFA, de familiariser tout le collectif avec la vision, l'idée du film. Les réunions de mise en scène, dont la notion est donc déjà plastique en Allemagne, recouvrent désormais en France des réalités encore plus variables, obéissant à cette idée de métamorphose nécessaire qui est inhérente au passage d'un système culturel à un autre. Mais leur persistance en tant que rendez-vous collectif, moment d'échange de l'équipe du film, montre l'attachement des exilés à cette interaction professionnelle qu'elle garantit pour le film. J'avais montré à Metz que cette méthode allemande de la Réunion a probablement contribué à structurer l'acte créatif dans les studios français entre 1933 et 1936, c'est-à-dire au moment où les exilés étaient les plus nombreux en France et où la production française était, elle, la plus désorganisée. Même si c'est, donc ça répondait là à un besoin aussi, ça pouvait répondre à un besoin notamment pour les jeunes techniciens français. Ça a donné lieu pour autant aussi à des tensions, hein, vous savez. Donc, dans cette première période, les films d'exil ont été des lieux de médiation complexes, vraiment particulièrement complexes. Cette méthode de réunion de mise en scène, elle s'inscrit dans une conception de l'œuvre collective qui suppose en effet un investissement général sans compter et une rigueur organisationnelle, une grande rigueur organisationnelle. Ça a parfois carrément divisé les équipes, c'est le cas sur La tendre ennemie. Mais pour rester sur vraiment cette première, toute première période, on a L'Ilium de Lang et On a volé un homme d'Ophuls, qui sont assez exemplaires de ce premier contact, on va dire. Il s'agit de deux films d'exil qui sont donc réalisés et sortis entre 1933 et 1934 et qui mettent en évidence la nouveauté du modèle organisationnel proposé par les exilés et la résistance à laquelle il s'est d'abord heurté, mais aussi le lien entre ce modèle et l'importance d'une certaine conception de la figure du producteur et des relations entre producteur et réalisateur. Ces films étaient produits donc par Pommer, le célèbre producteur au cœur de la réussite de la UFA depuis le début, tout début des années 20 et qui a été remercié, comme vous savez, comme les autres professionnels juifs dès 1933 et qui dirige donc désormais les productions Fox Europa à Berlin, à Paris, filiale européenne dont il espère donc faire une production internationale française. Ophuls a témoigné de la tentative de Pommer, je cite, de transplanter à Paris la discipline rigide que nous avions connue à Berlin. Et il a raconté avec humour comment, après deux réunions préliminaires déjà interminables, les Français étaient tous venus avec un cartable et une ardoise d'écolier, et comment un caméraman avait quitté avec fracas la troisième réunion qui rassemblait toute l'équipe technique, Ophuls, du réalisateur jusqu'à l'accessoiriste. Sans abandonner la méthode sur le fond, Ophuls va en retenir qu'il faut travailler de manière différente en France, souvent, surtout de manière plus conviviale, qu'il faut mener de manière plus conviviale ce travail collectif. Voilà, sinon ça ne marchera pas. Le jour même de la sortie de L'Ilium, Lang, de son côté, mais le jour de la sortie, hein, il publie un article dans le quotidien Elsässor qui est intitulé « Mes amis les ouvriers ». Encore incertain sur son avenir, le cinéaste tient manifestement à ménager un collectif qui s'est senti malmené. Ce que confirme en fait le témoignage de Gilbert Mandelic, un des trois assistants réalisateurs. Dans une conception marquée par l'esprit du collectif que j'ai évoqué avant, Lang vante l'investissement sans faille des travailleurs et techniciens français. Je le cite, « Je n'ai jamais vu à mes ouvriers un visage désobligeant, même si dans la fièvre du travail, nous perdions la notion du temps et les obligions à déjeuner à 3h30. » Et il poursuit, « Ce n'était pas non plus mon film, L'Ilium était leur film. » Alors, son texte traduit peu de temps, juste après, un peu plus loin, mais quand même un certain agacement face à un certain dilettantisme français, un défaut de rigueur. Je le cite toujours, « Au cours d'innombrables répétitions, on dispose les projecteurs de façon qu'ils ne puissent pas se trouver dans le champ. Pourtant, juste au moment où on s'apprête à tourner, on s'aperçoit invariablement que l'un d'entre eux brille devant l'objectif. » Alors, Gilbert Mandelic, qui est le deuxième assistant du film et qui est surtout l'assistant personnel, en fait, de Lang, qui a été recruté par Pommer parce qu'il est parfaitement bilingue et qui est, en fait, chargé d'aider Lang à se familiariser avec les Français parce qu'il parlait français, mais il connaissait pas le terrain sur le plan du milieu cinématographique. Mandelic relate de son côté que les collaborateurs français refusaient tout simplement ce rythme intense et sans pause qui était imposé sur le tournage, les journées s'étendant de 8h à 23h. Et il raconte comment un accessoiriste s'était mis chaque jour à faire bouillir la casserole de soupe derrière le décor pour rappeler tout simplement l'heure de la pause pour manger. Les Français reconnaissent de toute évidence, par ailleurs, le professionnalisme des exilés. Hein. Et ils sont donc il y a d'un côté ça, et en même temps il y a ce professionnalisme qui les frappe. Ils sont globalement marqués par les tournages, par leur exigence et leur sérieux, et notamment le silence. Hein. Le silence qui doit régner sur les plateaux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans 4 articles différents. Encore une fois, les cinéastes exilés étaient accueillaient très volontiers les journalistes, hein, aussi par volonté d'intégration. Et il y a plusieurs articles, hein, sur, j'en ai trouvé un sur La Tendre Ennemie, mais un aussi sur un film de Pabst, pareil, ou les autres, je les ai plus en tête, mais qui évoque ce silence, hein, qui est imposé sur le tournage et qui frappe les Français. Ils sont aussi frappés par autre chose, et notamment par leur façon de faire corps dans la fabrique du film. Et la citation que j'ai mentionnée au début de Laure Laurier, hein, avec cette idée que ce n'est pas équilibré, elle rappelle aussi cette perception de la présence des exilés. Cet aspect qui a évidemment alimenté le climat de xénophobie qui s'emparait du milieu cinématographique français en période de récession est lié, bien sûr, à la solidarité qui s'est exprimée entre exilés, mais il doit aussi à cette conception, je crois, de l'équipe du film, à des pratiques communes dans le travail et centrées sur une collaboration intense sous l'égide du réalisateur, mais aussi du producteur, le producteur participant à asseoir l'autorité du réalisateur. Et je vais m'arrêter un point là-dessus. Cette fonction du producteur dans la fabrique du film en Allemagne, elle est en lien avec la place qui lui est accordée dans cette définition du film d'exil par Horak. Hein. L'articulation entre les trois, là, la marque qu'a laissée Pommer est, je pense, aussi importante ici. Ça ressortait déjà de la littérature sur la UFA. Et ça se trouve confirmé par l'ouvrage, donc du coup pas l'ouvrage d'Ursula Hart qu'a cité déjà Christophe, mais l'ouvrage pour le coup de Wolfgang Jacobson. Erich Pommer a une Produzent part Film Geschichte, donc un producteur fait l'histoire du cinéma, qui sont parus d'ailleurs la même année. Donc c'est les deux. Alors déjà, dans un entretien qui est publié dans Film Courir, le 1er janvier 22, Pommer défend le point de vue que, je cite, « la valeur d'un film tient dans le choix soigneux du sujet, une mise en scène pleine de goût, une bonne distribution des rôles, un choix prudent des interprètes et, surtout, dans une bonne collaboration du réalisateur avec les décorateurs et les opérateurs. » Et Jacobson souligne, je cite, « il est frappant de voir que dans presque tous les textes et toutes les déclarations qu'il publie dans les années 20, Pommer tourne autour d'une même idée de la production, décrivant les différents domaines professionnels d'une fabrication du film, dans laquelle la qualité et le succès du film sont en fin de compte indissociables de la coopération de toutes les personnes impliquées. » En fait, Jacobson montre comment Pommer parvient à faire la force de sa première grande maison de production, la Decla Bioscope, en constituant une très solide équipe de collaborateurs, et comment l'arrivée du parlant renforce encore chez lui ce principe selon lequel la fabrique du film repose sur un collectif qui rassemble des éléments venus de directions opposées, un collectif qui intègre donc désormais pleinement le son et la musique. Et Pommer va miser là-dessus, d'ailleurs. Alors, ce qui retient l'attention, c'est donc aussi la place, la fonction assignée au réalisateur au sein de ce collectif et qui est donc soutenue par le producteur. Pommer se considérait lui-même comme un, je cite, « producteur artistique ». Et comme le souligne Jacobson, c'était un ami des réalisateurs. C'est là où il faut faire, je pense, la différence avec les versions multiples. Les cinéastes qui ont eu comme directeur de production Pommer en témoignent. Lang, okay, bien sûr, il a été lié avec lui d'une amitié à vie et il évoque, je le cite, une collaboration dans laquelle Pommer crée un espace de liberté pour le réalisateur. Beaucoup plus tard, il écrit encore que Pommer s'est toujours vu comme le chef d'une équipe. Mais si la liberté de Lang a été indéniablement maximale et supérieure à celle qui était octroyée à d'autres réalisateurs, il y a d'autres cinéastes, en particulier Joe May, Hans Schwarz, Ludwig Berger, qui soulignent l'habileté et le tact de Pommer face à eux, et la manière dont, et là je cite May et Schwarz, qui ont écrit un article en commun, il peut aider le réalisateur à accorder ses idées artistiques avec les nécessités budgétaires. Dans ses mémoires, Ziodmak lui évoque son ascension à la UFA en signalant que son deuxième film, donc c'est Quick, est déjà, je cite, une production Pommer. Et il évoque son cinquième film ensuite, qui est Stürme der Leidenschaft, donc une version multiple, Tempête de la Passion, là. Mais là, c'est intéressant parce que Zio de Mac, d'un côté, on sent bien qu'il signale que Pomer est très présent, voire trop. Et là, Pomer est présent notamment dans l'écriture, vient dans les séances d'écriture. Je vais reparler de ces séances d'écriture après. Mais en même temps, Zio de Mac souligne que Pomer lui laisse toute latitude, alors qu'il est jeune cinéaste, pour s'imposer face à la star Yannings sur le plateau. Il lui laisse diriger Yannings et Yannings doit obtempérer. Et même si cette liberté qu'il lui accorde, elle va aussi avec une exigence en termes d'efficacité, des délais parfois impartis qui sont parfois courts. Je reviendrai à toute fin de mon intervention en conclusion sur ce rapport à l'acteur. Alors, de son témoignage de Zio de Mac, donc, comme de ceux d'autres, ressort que Pomer intervenait souvent dans les choix de distribution, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les versions multiples, mais même sur d'autres films, et ce que l'ouvrage de Jacobson confirme, mais qu'il laissait, par contre, ses réalisateurs choisir leurs principaux collaborateurs techniques. Et cette pratique était devenue usuelle dans les groupes de production de la UFA, si on s'en réfère au début de plusieurs cinéastes à Berlin. La valeur centrale de la collaboration détermine en fait ici la liberté accordée au réalisateur qui dirige l'œuvre collective et qui doit donc pouvoir travailler en parfaite entente et confiance avec ses principaux collaborateurs, chefs opérateurs et décorateurs au minimum. Une recherche serait à mener sur la place du réalisateur dans les autres sociétés de production allemandes à l'époque. Mais si on s'en réfère au témoignage de Kurt Bernhardt, par exemple, qui lui a réalisé une douzaine de films avant son exil et un seul en fait à la UFA, donc il était dans d'autres sociétés de production, il semble bien que cette centralité de la figure du cinéaste sous l'égide du producteur valait dans toute la production cinématographique allemande. Il affirme dans ses mémoires, je le cite, que le réalisateur, en Allemagne, c'était Dieu Tout-Puissant. Et il y a une autre déclaration de Zio de Mac, qui avait d'abord travaillé à la Nero Film et ensuite à la UFA, et qui définit quasiment de manière parfaite la conception allemande des rôles dans la fabrique du film. Je le cite, « Je prends en compte chaque idée individuelle des membres de mon équipe, mais en définitive, je constitue l'autorité finale et responsable du film. » La collaboration structurelle de l'œuvre collective est orchestrée donc par le réalisateur sous l'égide du producteur. Cette culture de la collaboration, qui est essentielle chez Pomer et ses équipes, elle se retrouve chez les autres producteurs exilés dans les années 30 en France. Même Nebensal, qui est connu et ciblé par les réalisateurs pour sa pingrerie, laissait manifestement le cinéaste choisir ses collaborateurs. Il l'a fait avec Zio de Mac, mais aussi après avec Litvak. Cette pratique qui consiste donc pour le producteur à octroyer un espace de liberté collaborative au réalisateur se trouve sans doute renforcée durant l'exil par les liens étroits qui unissent plusieurs d'entre eux. Nebensal et Zio de Mac finiront par se fâcher justement pour des questions d'argent, mais ils sont cousins. Le double émigré Noé Bloch est l'oncle de Litvak. Bernhardt est le beau-frère d'Eugen Tuscherer et ils fondent ensemble à Paris la BUP, la filiale de la BUP française, donc la BUP française, filiale d'une la maison mère britannique, à la fin de l'année 37. Donc si solidarité il y a eu, c'est indéniable et heureux, il est par ailleurs manifeste que sur les films d'exil dont le producteur était lui-même exilé, les réalisateurs venus d'Allemagne n'avaient pas du tout à batailler pour s'imposer, la centralité et l'importance de leur rôle dans la création filmique allant de soi. Parenthèse, ça vaut évidemment pour les producteurs exilés, ça peut valoir aussi pour certains producteurs français, mais qui connaissent bien Berlin, par exemple, ou qui connaissent les habitudes allemandes et qui les apprécient. Je pense en particulier à Cornillon Molinier, qui a produit Molnar, par exemple, qui avait travaillé à Berlin, qui était passé à Berlin. Si on reprend la définition de Horak, il est en revanche évident que lorsque le producteur ne partageait pas cette conception de la création structurée à partir du socle de l'équipe technique, il fallait effectivement que les exilés soient suffisamment en nombre pour tenter de la mettre en place et que ça pouvait être plus compliqué. Cette distinction soutient l'idée d'une périodisation en deux temps pour le film d'exil en France. Après une première période très tendue, on va dire entre 1934 et la fin de l'année 1935, une seconde sans doute plus facile et plus harmonieuse, mais écourtée en 40 évidemment. Il y a deux raisons essentielles à cela. La première, c'est l'évolution du contexte économique et social, avec une hostilité qui est désormais moindre hein, à l'égard des exilés, qui sont par ailleurs aussi moins nombreux, hein, beaucoup sont partis. Et la deuxième, c'est la reconnaissance globale de la profession, je dis bien globale, et non plus par certains seulement, à savoir surtout la jeune génération, de l'apport des exilés à l'industrie cinématographique française, cette plus-value qu'ils peuvent constituer. Et ce tournant, il est notamment lié au succès international de Meyerling de Litvak, qui a été produit par l'anérofilm de Nebensal et qui est sorti en janvier 1936. Alors que la première période avait été marquée par des difficultés d'implantation des sociétés de production dirigées par les exilés, avec le départ de Pommer hein, en 1934, donc la tentative malheureuse de la Fox Europa, mais aussi les obstacles rencontrés par exemple par l'anérofilm avec les manifestations d'hostilité suite à la crise est finie. Cette seconde période voit désormais la réussite de producteurs exilés, celle de l'anérofilm, mais aussi notamment celle de la BUP française, donc de Touchereur en 1937. Fondée en 37. Alors, durant ces années d'exil en France, même si donc avec plus de difficultés dans cette première période, les cinéastes, producteurs, techniciens venus d'Allemagne ont montré une capacité à faire des films d'exil des espaces d'échange en fédérant leurs équipes, en les faisant adhérer à de nouvelles pratiques comme celle de la réunion de mise en scène et en leur faisant admettre des exigences auxquelles ils n'étaient pas habitués. Ils semblent à cette fin recourir à diverses stratégies. Ces exilés s'appuient d'abord sur leur connaissance des métiers du cinéma. Et là, je parle en partie des cinéastes exilés, qui connaissaient très bien les métiers du cinéma, de manière bien supérieure à leurs homologues français. Ça a été souligné par Elsa Sœur d'ailleurs dans un article à propos de Zionax, mais c'est indéniable. Ça tenait à leur formation. Si on s'en réfère au témoignage des intéressés eux-mêmes, hein, de ces réalisateurs, une fois leur potentiel reconnu à la UFA, un futur metteur en scène devait se familiariser à Berlin avec l'ensemble du studio. Il pouvait passer plusieurs semaines, voire des mois, à prendre des cours en décor, en photographie, en montage, le tout offert par la firme qui misait sur son talent. Il y avait un investissement. Les techniciens français ont d'ailleurs été surpris hein, par ces compétences techniques des réalisateurs allemands. Juste une précision, il y a eu un régime un peu faste, je pense à la UFA, où là vraiment ça pouvait durer longtemps cette formation. Il y a eu une période, je pense, début des années 30, pardon, où c'était moins faste, mais il y avait toujours, ça existait toujours. Et pour les autres sociétés de production, je sais par exemple que chez Nebensal, il y avait quand même cet apprentissage sur le tas. En tout cas, voilà, il fallait en passer par les plusieurs métiers avant d'être soi-même de diriger un film. Le jeune chef opérateur français Michel Kelber est engagé en 1934 sur le film d'exil « L'or dans la rue », réalisé par Bernhardt et produit par Touchereur. Et il se souvient, je le cite, « Bernhardt était plus technicien que les Français et c'était un bon technicien. Ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il prenait ses décisions rapidement. » Il y a aussi le témoignage très précieux de la script Jeanne Vita Monrobert hein, sur les tournages de L'Équipe et de Meyerling dans La Lanterne Magique, un ouvrage qu'elle a publié sur les films de Litvak. Ce témoignage est particulièrement intéressant par rapport à cette perception des compétences techniques des cinéastes exilés et leur impact sur les ouvriers et techniciens français. Je la cite, « Litvak ne comprend pas le désir des machinistes qui, à midi, veulent déjeuner. Ils bougonnent. Non, la lumière est bonne. On déjeunera quand le plan sera tourné. Et il ne cède pas. Faites comme moi, dit-il. Mais tant pis. Après tout, Litvak n'est pas aussi éloigné de l'équipe que nombre de ses confrères. Lui, au moins, est passé par tous les stades du cinéma. On n'a pas été tour à tour accessoiriste, assistant et monteur impunément. Ça aide. » Et elle précise juste après que Litvak surveillait aussi le montage. En fait, ce qui est parfaitement normal pour un cinéaste maintenant, puisque c'était d'usage que les cinéastes montent eux-mêmes leurs films, et à partir du passage au parlant, il y avait un monteur son qui venait assister. Ce témoignage de Jeanne Vita Monrobert, il souligne l'expérience que les techniciens et ouvriers français font de la différence de métier et de méthode entre réalisateurs français exilés, et le fait que cette maîtrise technique permet aux cinéastes de faire entendre ses exigences, parce qu'elle le rapproche de son équipe. Et donc la maîtrise des techniques de ces exilés leur permet aussi, en réalité, de mieux contrôler leurs films. Zionmak insiste aussi sur cet aspect, Et par exemple, il explique qu'il choisit toujours de débuter le tournage avec la scène la plus difficile pour gagner la confiance de son équipe via la démonstration de son savoir-faire. Comme l'indiquaient les témoignages cités d'Henri Alecan ou de Laure Lourier sur ce trio Ophüls-Schuftan-Godko ou bien Berger-Schuftan, les exilés tentent de générer une collaboration interprofessionnelle intense à partir d'une base minimale, de la base minimale dont ils disposent sur ces postes clés de techniciens. À cet égard, et si on prend en compte le rôle moins important dévolu aux décorateurs dans l'organisation allemande depuis l'arrivée du parlant, cet aspect est particulièrement souligné par Weizmann, et le fait que ces décorateurs sont par ailleurs moins partis d'Allemagne, ce fonctionnement pourrait expliquer la proximité accrue, c'est pas le seul facteur, mais il favorise en tout cas la proximité accrue et particulièrement déterminante des tandems entre réalisateurs et chefs opérateurs sur les films d'exil dans cette organisation du travail, ce tandem ayant alors vraiment valeur de locomotive pour le collectif du film. Rien d'étonnant en ce sens à ce que le chef opérateur Eugen Schuftan, qui avait épaulé Ophüls sur sa première réalisation à Berlin, éclaire 6 des 7 films qu'il réalise durant son exil des années 30, mais aussi qu'il fasse, par exemple, après l'Atlantide, 3 films français avec Pabst, ou encore après Menschen am Sonntag et Abschied de Ziodmak, 2 films français avec lui. Soucieux d'intégration, les exilés semblent par ailleurs avoir retenu les échecs de l'Ilium et de La crise est finie, et ils tendent à développer une plus grande mixité de leurs équipes sur la base de tandems qui se répètent et s'inscrivent dans une logique que je qualifierais de centripète et qui structure l'équipe. Ainsi, si on reprend l'exemple de Schuftan, il est assisté une première fois par Alecan sur La tendre ennemie, puis sur 5 autres films, dont 2 de Pabst et 1 de Ziodmak avant Quai des Brumes. Paul Portier assiste également Schuftan sur Mademoiselle Docteur et il enchaîne immédiatement sur Yoshiwara. Il y a aussi Louis Page qui va travailler 2 fois avec Schuftan. Si on prend Rudolf Maté, j'ai pas pris l'exemple de Comte là, mais si on prend Rudolf Maté, il est assisté de Louis Ney sur un film de Kurt Geron, sur un film de Trivas et sur Lilium. Toujours dans l'esprit de favoriser la dynamique de collaboration, les exilés inventent aussi parfois. Par exemple, Ophüls accorde le poste de chef monteur du roman de Werther à la fois à Jean Sacha et Gérald Bernsdorp après leur avoir demandé s'ils veulent faire équipe et il reconduit ce tandem sur son lendemain. Enfin, ce fonctionnement collaboratif est de manière globale consolidé au fil des ans par le recrutement de techniciens qu'on pourrait qualifier d'amis des exilés, parce qu'ils ont d'emblée adhéré à leur manière de travailler. Et parmi eux, je citerai notamment à l'image Henri Alecan ou Armand Tirard, qui a travaillé par exemple sur la vie parisienne avec Ziodmak et qui après travaille avec Litvak. L'assistant réalisateur Henri Eisner, l'ingénieur du son William Sievel, qui a travaillé avec Bernhard puis Litvak, les monteurs Jean Sacha et Henri Rust, qui ont travaillé notamment avec Ophüls et Litvak. En amont, il y a une espèce de configuration comme ça, on crée un avec différents niveaux, j'ai l'impression, un collectif, une équipe du film. Je décale un peu le curseur pour dire un mot de cette culture collaborative, mais là, ça reste à travailler, en amont du tournage, parce qu'elle s'exerce aussi beaucoup en amont. Les films d'exil, on l'a vu un petit peu hier, j'en ai un peu parlé, s'articulent parfois directement aux versions multiples. C'est le cas pour Lilium, mais aussi pour Tunnel de Bernhardt, qui en fait est une version multiple qui devient un film d'exil. Ce qui se passe, c'est que les exilés reprennent en fait aussi en le développant le modèle que ces versions multiples ont fourni à minima, avec donc une collaboration au niveau de l'écriture en particulier et au niveau de la musique. Vous aviez ça dans ces versions multiples. Donc, par exemple, pour le scénario, on ajoutait un dialoguiste de l'autre langue, mais qui ne collaborait pas forcément, d'ailleurs, avec le scénariste. Juste pour dire que je pense que ça a servi de modèle, parce que dans l'idée, justement, de constituer des tandems d'écriture. Donc, le compositeur et célèbre parolier Jean Lenoir travaille avec Franz Waxman sur Lilium et La crise est finie. Ensuite, avec Paul Dessau, par exemple, sur L'or dans la rue de Bernhardt en 1936. Serge Weber collabore avec le compositeur autrichien exilé Hans May sur Meyerling, compositeur dont nous a parlé Eurydice, pardon, ce matin. Excuse-moi. Mais c'est surtout au niveau de la collaboration des scénaristes que c'est le plus perceptible. Sans doute aussi, parenthèse, parce que beaucoup de compositeurs sont partis plus vite, on filait vers Hollywood. Alors, ce travail collaboratif au niveau du scénario, il s'explique bien sûr par la moindre maîtrise de la langue française pour les exilés. Mais ces tandems ou trios prolongent, voire quatuor, prolongent aussi une pratique déjà très collaborative de l'écriture en Allemagne. C'est-à-dire que, en Allemagne, à minima, le réalisateur était associé à l'écriture. Alors là encore, l'exemple parautistique, c'est évidemment celui de Lang et Harbou, mais bien en dehors de ce cas-là, vous aviez des pratiques d'écriture qui faisaient que le cinéaste travaillait avec le scénariste. Il y avait ce tandem à minima, et puis pour les grosses productions, dans le livre de Jacobson, ça ressort clairement, mais aussi un peu chez Kreimeyer, là c'était carrément une écriture plurielle. Par exemple, pour L'Ange Bleu, c'est trois scénaristes. Hein. Et il y a ce qu'on appelle à ce moment-là une autre pratique qu'on appelle les conférences de scénario, c'est-à-dire Drehbuchkonferenzen, hein, c'est le mot utilisé, conférences de scénario, qui réunissent ceux qui écrivent. Voilà. Dans un article qui date un peu, mais qui reste très, très, enfin, qui a été important, Ginette Vincendeau, elle avait déjà à juste titre souligné, je cite, que la majorité des grands noms français, de Colette à Henri Janson, en passant par Yves Mirande, ont participé aux films des réalisateurs allemands, mais souvent aux côtés de collègues étrangers. Et de fait, vous avez Kurt Alexander, par exemple, qui a travaillé avec André Paul-Antoine, sur La tendre ennemie, mais d'autres. Là, je vais simplement, pour gagner du temps, citer les différents, au moins lister les scénaristes allemands dont j'ai trouvé qu'ils avaient pu travailler en collaboration avec des Français. Il y a Kurt Alexander, Hans Wilhelm, Robert Lippmann, Hans Jacobi, Imgard von Kube, Hermann Kosterlitz, Karl Zuckmayer. Donc, tous ceux-là ont été très impliqués dans l'écriture des films d'exil aux côtés de scénaristes et de dialoguistes français. La collaboration, par exemple, entre Irma von Kube, Joseph Kessel et Litvak est évoquée aussi par Jeanne Vita-Montrobert et elle montre bien l'intensité des échanges qu'il y a entre eux. Idem pour celle d'Ophuls avec ses scénaristes exilés, mais aussi, par exemple, avec André-Paul Antoine ou Jacques Nathanson. Et, par exemple, pour le roman de Werther, Ophuls s'enferme dans un hôtel pendant plusieurs semaines avec Hans Wilhelm pour finir l'écriture du scénario. Donc vous avez vraiment, on retrouve cette écriture avec l'implication du cinéaste. Alors en forme de conclusion et d'ouverture, je voudrais m'arrêter sur quelques remarques et déclarations que fait Kurt Bernhardt dans deux entretiens qu'il donne à la presse française en juin 1933, alors qu'il vient donc d'arriver d'Allemagne et qu'il travaille sur Tunnel. Donc je le cite. « J'estime que l'on devrait intensifier les points de contact entre les milieux cinématographiques français et allemands, car tous deux pourraient déceler des indications utiles et appréciables. Ainsi, par exemple, une des supériorités du cinéma français réside dans la légèreté et la facilité du dialogue. Un des défauts des films allemands, c'est de donner une place non seulement trop importante, mais trop voyante à la technique. » Et puis un peu plus loin, dans le deuxième entretien, « J'ai été surpris de constater la richesse du cinéma français en comédiens de talent. Vous possédez un grand nombre d'artistes de réelle valeur et que nous n'avons pas en Allemagne. Et puis, pourquoi n'utilise-t-on pas davantage à Paris des techniciens étrangers? C'est le seul moyen d'arriver à un cinéma international. » Dans ces propos, on retrouve le souci premier de la collaboration et, parenthèse, il y a d'autres endroits où Bernhardt, mais il n'est pas le seul, évoque par exemple le fait que les réalisateurs allemands, quand ils tournaient sur deux plateaux différents à la UFA, ils se retrouvaient souvent aux pauses ou entre après tournage pour discuter entre eux, hein, et même de leur propre... Donc on retrouve ce souci là dans ce qu'il dit évidemment de la collaboration. Mais aussi l'identification des deux points forts sur lesquels les échanges donc seraient bénéfiques. D'un côté, cette importance de la technique dans le cinéma allemand, et là, on vient de voir que la question de l'organisation la conforte. Et de l'autre, la place de l'acteur et du dialogue dans le cinéma français. Du point de vue des transferts culturels à l'œuvre dans les films d'exil, les exilés ont pu transposer sous des formes diverses des pratiques telles la réunion de mise en scène ou les réunions de scénario, et ils ont partagé sans doute, une autre manière de penser et de faire du cinéma ancrée dans cette culture de la collaboration. Ces films ont donc été des lieux inventifs où ils ont cherché et souvent trouvé des voies pour une création filmique structurellement dynamique et interprofessionnelle. Mais plusieurs de ces professionnels, et notamment ce qui concerne les cinéastes, ont quitté la France avec en retour une autre idée du travail, notamment avec les acteurs. Il ne vous aura pas échappé que ces acteurs n'ont guère de place dans le processus créatif allemand que je viens d'évoquer. Et s'ils n'étaient pas exclus des réunions de mise en scène, ils y étaient en tout cas tout à fait dispensables. L'acteur allemand, dans une tradition héritée pour le coup de l'expressionnisme, était d'abord un matériau au service du film. Donc, il s'intègre dans une des composantes. C'est intéressant parce que même s'il était connu, s'il était célèbre, la notoriété d'un acteur en Allemagne, elle pouvait être décisive pour des projets. Et on a vu que Pommer intervenait largement justement dans ses choix de distribution, mais par contre pas dans ses deux collaborateurs. Et il y avait cette notoriété, mais l'acteur n'avait pas pour autant le statut de la star hollywoodienne ou même de la star française, je veux dire, en termes de pouvoir décisionnaire. Lors de son premier séjour aux États-Unis à l'automne 24, en compagnie de Pommer, Lang a eu une discussion éclairante avec Douglas Fairbanks sur certaines différences entre les cinématographies allemandes et américaines. Alors que le réalisateur berlinois explique qu'en Allemagne, je le cite, c'est le film qui est l'attraction, et que même chose quand il dit Lilium et leur film, et que 6 ou 7 des meilleurs acteurs allemands ont joué du coup dans les Nibelungen, Fairbanks rétorque que dans les films américains, la star est la personne la plus importante. L'acteur allemand est également donc soumis au principe de l'œuvre collective, mais au sens où voilà, il le sert, et il me semble que sur ce point, c'est ouvert, l'industrie française était plus proche finalement de Hollywood, c'est-à-dire qu'elle avait en tout cas un star system déjà dans les années 30 avec des acteurs et actrices capables d'impulser des projets ou d'aider à les impulser, Simone Berriot, Edwige Feuillère ou d'autres. Tandis que la star Jannings, dont je vous ai parlé tout à l'heure, certes gagne beaucoup d'argent et est mise en avant, mais elle doit se soumettre aux volontés du cinéaste qui la dirige. Donc les films d'exil ont donc aussi été des lieux où certains cinéastes exilés, au moins à mon avis, Ophuls, Bernhardt et Litvak, pour ce que j'ai pu travailler, ont expérimenté une véritable collaboration cette fois avec l'acteur. Ils avaient affaire avec des acteurs plus naturels, si on prend le terme de Bernhardt, plus à l'initiative. Et il n'est pas anodin qu'il s'agisse en l'occurrence de réalisateurs qui avaient tous trois d'abord eu des expériences de metteurs en scène, de théâtre. Les films d'exil ont sans doute constitué un espace de création du coup spécifique européen qui, plus que les versions multiples, en tout cas de manière plus profonde, je crois, ont mis en présence deux manières de penser et de faire du cinéma. Je vous remercie pour votre attention.